Bonjour à chacune et à chacun. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui, j'espère, vous tient à cœur. C'est la liberté. De temps en temps, il est bon de faire une petite synthèse sur tel ou tel sujet, et j'ai ce sujet à cœur depuis un certain temps, de par différents ministères que j'ai eus et que j'ai encore, par la grâce de Dieu. Si on regarde dans le dictionnaire, nous apprenons que la liberté est la possibilité d'agir selon son bon plaisir, son bon vouloir. Et il est vrai que depuis quelques décennies, le monde a connu une vague de libération et de liberté sans précédent. J'ai personnellement assisté à la chute de plusieurs empires, l'empire britannique, colonial, l'empire français, le rideau de fer qui s'est écroulé après 70 ans de régime, de terreur et de massacre qui s'est écroulé en quelques mois pratiquement, des fronts de libération nationale qui jaillissent, qui naissent tous les jours dans toutes sortes de pays. Donc on est confronté à un problème effectivement de liberté. Les Français ont bien connu ce mot et le connaissent encore. Ils sont à l'origine en quelque sorte de pas mal de ces mouvements ici ou là, la statue de la liberté aux États-Unis qui a été ordonnée aux Français, commandée aux Français pour célébrer l'aide qu'ils ont apportée lors de la libération de ce pays, entre guillemets. Et je crois que les Toulonnais aussi sont bien placés pour parler de liberté. Je crois que si l'apôtre Paul, au cours de son énième voyage missionnaire, arrivait cet après-midi par le TGV de 14h27, et prenant la parole demain au conseil municipal de Toulon, il dirait quelque chose comme ceci. Toulonnaises et Toulonnais, je vois qu'à tous égards, vous êtes un peuple épris de liberté. En effet, hier, en descendant de la gare, je me suis trouvé brusquement sur une grande place, au demeurant fort belle, ornée d'une magnifique fontaine monumentale avec une plaque en commémoration de la libération de Toulon. Et puis j'ai remarqué sur un panneau plus loin qu'elle s'appelait la place de la liberté. Et puis en traversant le boulevard, je suis allé à la poste centrale de Toulon, pour poster une épître à une église que je venais de visiter. Et j'ai remarqué sur le sol de la poste centrale, dans la pièce principale, le mot « liberté » écrit dans toutes sortes de langues, en français, en grec, et puis après dans une multitude de langues. J'ai eu du mal à les dénombrer toutes, parce que les gens croyaient que je voulais leur passer devant, tellement la poste était pleine, mais je vous assure que ce mot est vraiment répété à de nombreuses reprises. Et c'est vrai que ce mot de liberté, on le met maintenant un peu à toutes les sauces. Et c'est pas étonnant, parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Je vais vous reporter quelques années en arrière. Alors comme ça, votre Dieu, il vous a interdit de manger de tous les arbres de ce jardin. Oh, dis donc, alors là, vraiment, hein, vous parlez de liberté. Il vous met dans un jardin, puis il vous dit, il faut pas manger de ces fruits. Alors Ève, qui était quand même pas tombée de la dernière pluie, n'oublions pas que c'était notre première mère à tous, elle était créée à l'image de Dieu. Elle lui a dit, non, tu sais, en fait, Dieu nous a permis, il nous a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf un. Ah bon? Et lequel? Ben celui-là, tu vois, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, ben oui, ben ça m'étonne pas, alors là, dis donc. Oh, c'est justement l'arbre de la liberté. C'est lui qui va vous donner la connaissance et la décision du bien, du mal. Si vous mangez de ce fruit, les œillères vont tomber. Votre mort que vous avez là, par lequel il vous manipule, il vous tient, va tomber. Vous serez libre, vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pourrez décider vous-même de votre vie, de votre sort. Et nous connaissons la suite. Et depuis, il est vrai que chacun de nous, nous rêvons de cette liberté perdue. Les enfants attendent avec impatience de devenir adultes. Ah, quand je serai grand, je n'aurai plus à demander à papa, à maman de l'argent, ceci, cela. Je pourrai traverser en dehors des passages cloutés, comme disait Fernand Reynaud dans un de ses sketchs. Je pourrai conduire la voiture, etc. Quand on est adulte, on se dit, oh, si je pouvais me débarrasser de mon patron et me mettre à mon compte. Hélas, c'est pas toujours facile non plus. Et puis quand on est tout simplement travailleur, on aspire à la retraite. Ce temps de liberté par excellence où on peut voyager et faire un tas de choses. L'évangéliste Frédéric Travier nous a retracé un peu ce problème en prenant comme exemple, un peu comme Paul, qui dans ce discours d'Actes 17 que vous avez reconnu au passage, avait cité deux poètes que les Grecs connaissaient. Il nous a parlé de la chèvre de Monsieur Seguin. Nous étions en Provence, noblesse oblige, et il l'a comparé à la parabole du fils prodigue. Bien que, évidemment, les deux histoires ne se terminent pas de la même façon, comme vous le savez. C'est vrai que le monde met ce mot de liberté à toutes les sauces. Et on peut guère, finalement, le déplorer, dans ce sens que, malgré tout, nous devons à nos ancêtres, par toutes sortes de choses, une certaine forme de liberté. Moi-même qui ai connu la libération de la France et précédemment l'occupation, je peux vous dire que 1945 est resté gravé dans ma mémoire. Mais il faut reconnaître qu'on met un peu ce terme à toutes sortes de sauces, si je peux dire. On pense beaucoup dans le monde à une liberté matérielle, économique, qui souvent doit s'acquérir avec des armes, avec des grèves, avec tout un tas de choses. Mais je crois que, et nous avons eu l'occasion récemment de l'utiliser, par exemple la Déclaration des droits de l'homme et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous viennent nous conforter dans le rôle que nous avons, par exemple, dans la propagation de l'Évangile. Nous avons été obligés récemment, avec les Gédéons, de sortir ce texte à des autorités qui voulaient nous empêcher de distribuer dans la rue, sur la voie publique. Et je pense que ces textes pourront être utiles aussi à vous tous qui semez l'Évangile d'une façon ou d'une autre. La liberté d'expression, de religion, et de manifester cette religion sous toutes les formes qu'il nous plaît de choisir, sont des droits reconnus par notre société, par notre constitution. La police est là pour nous protéger. Figurez-vous que le responsable des Gédéons en Égypte nous donnait un témoignage il y a quelque temps, et on était étonnés de savoir qu'en Belgique, il distribuait librement et sans le moindre accroc des évangiles à la sortie des lycées et des universités. On lui a dit « mais c'est pas un pays musulman ». Il a dit « oui, c'est un pays musulman, mais nous n'avons qu'à téléphoner à la police et ce que nous faisons chaque fois, elle vient nous protéger ». C'est quand même extraordinaire de savoir que dans ce pays, la police protège la propagation de l'Évangile. À ce sujet, j'aimerais dire, en m'adressant aux jeunes et aux enfants, que on entend quelquefois, dans la bouche, j'espère, de non-chrétiens uniquement, des gens qui disent « moi, vous savez, mes enfants, je les laisse libres ». Je ne veux pas les influencer, ils auront toute la vie après pour découvrir la religion s'ils en souhaitent une, mais ça n'est pas mon rôle de les forcer, je ne veux pas les influencer, je veux qu'ils soient libres. Eh bien, j'aimerais dire à ces parents, et j'aimerais que vous leur répétiez si d'aventure vous les rencontriez, que ce genre de liberté, en réalité, ça n'est pas la liberté selon Dieu. Ne pas enseigner les vérités fondamentales et en matière de foi chrétienne à des enfants, c'est quelque chose de très grave, duquel ils devront rendre compte un jour à Dieu. Ne pas enseigner à un enfant sous prétexte d'une soi-disant liberté, ça revient pratiquement à laisser à un condamné à mort juste le choix de choisir s'il préfère être pendu ou recevoir une injection létale, ou être fusillé. Vous voyez, c'est à peu près ce genre de liberté que l'on laisse. Alors bien sûr, Dieu est grand et miséricordieux pour sauver un enfant qui n'aurait pas eu une éducation chrétienne, mais nous savons, vous et moi, que c'est prendre un grand risque et que de toute façon, les parents devront un jour en rendre compte. Alors, c'est vrai que cette liberté, de nos jours, elle a été vraiment et souvent galvaudée. Certains la nient totalement, d'autres pensent que c'est une simple illusion. Il est vrai que nous sommes tellement conditionnés par tout un tas de facteurs. Certains disent que nous sommes véritablement dominés et il n'y a plus de liberté. Dans l'Antiquité, déjà, on parlait de fatalité. La fatalité avait un pouvoir extraordinaire. Alors, on allait consulter des augures, on allait consulter des astrologues pour savoir ce que le destin avait prévu pour chacun. Et dans l'époque moderne, alors, nous sommes devenus beaucoup plus rationalistes. Il y a tout un tas d'idées qui circulent, que nous sommes influencés par exemple, la loi des causes et des effets. Telle cause produit tel effet, il n'y a pas d'effet sans cause, donc nous n'y pouvons rien changer. Il y a également tout un tas de mécanismes qui régissent les relations entre les hommes. Nous sommes en période électorale et nous sommes abreuvés tous les jours de sondages. Comment se fait-il, par exemple, que en interrogeant 1000 personnes, on arrive à avoir un aperçu très approchant de ce que vont décider à peu près 30 à 35 millions d'électeurs? Ça laisse à réfléchir quand même. Il y a effectivement certains mécanismes qui jouent, qui sont souvent inconscients, des facteurs psychologiques aussi, des traumatismes que nous avons subis dans l'enfance et dont il faut un jour arriver à se débarrasser par la grâce de Dieu. Il y a des facteurs sociologiques. Imaginez ce que chacun de nous serait si, par exemple, moi ou vous étions nés le 13e enfant dans une famille éthiopienne ou à Calcutta. Est-ce que nous serions exactement ce que nous sommes aujourd'hui? Et donc, petit à petit, l'homme en arrive à nier cette notion de liberté. Mais je dirais que nier la notion de liberté, c'est en fait refuser de prendre ses responsabilités. Que dit la Bible? Dans l'Ancien Testament, c'est vrai, le terme de liberté n'est pas très très souvent utilisé. La référence principale est la libération de l'esclavage, et en particulier, bien sûr, de l'esclavage d'Égypte. Mais nous voyons très vite, tout de suite, que le peuple d'Israël est libéré de l'esclavage d'Égypte, non pas pour faire ce qu'il veut, mais pour accomplir le plan et la volonté de Dieu. Lorsque Dieu lui donne le décalogue, il prend la peine de préciser « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai délivré du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face, devant ma face, etc. » Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. C'est ça le message biblique. La notion biblique de la liberté est inséparable de la notion de responsabilité. L'homme est libre parce qu'il est responsable et il est responsable parce qu'il est libre. C'était exactement le message du Jardin d'Éden et il n'a pas changé. Et je prends le terme de responsable au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'on devra un jour répondre de ses actes devant Dieu, et nous devons actuellement répondre de nos actes, quelle que soit notre position dans l'Église, dans une association chrétienne, dans une entreprise et dans le monde en général. Nous devons rendre des comptes à Dieu d'abord, mais aux hommes aussi, et de la même façon. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a quand même une parole que j'aimerais vous rappeler, et je suis reconnaissant aux frères tout à l'heure qui nous a parlé justement de la libération dans sa prophétie, c'est Ésaïe 61, que le Seigneur a repris d'ailleurs ce passage lors de pratiquement son premier grand sermon dans une synagogue. L'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement ou leur délivrance. Donc, dans le Nouveau Testament, la notion de liberté, je dirais, est présente, partout présente. Nous sommes libérés du péché, mais il y a certains domaines où cette liberté se vit par la foi. Par exemple, nous sommes libérés du péché, mais par ailleurs, nous devons veiller et prier. car la chair est faible et nous sommes tentés constamment. Nous sommes libérés de la tyrannie de la loi, mais Jésus nous a montré que cette loi, par certains côtés, était encore plus rigoureuse, puisque, par exemple, se mettre en colère contre notre frère, ça équivaut déjà à un meurtre. Regarder une femme avec un regard un petit peu bizarre, c'est déjà commettre l'adultère dans son cœur. Donc c'est une loi encore plus sérieuse, je dirais. Nous sommes libérés de l'aiguillon de la mort, mais hélas, nous savons que, à moins que le Seigneur ne revienne avant, nous devrons tous y passer un jour. Nous sommes délivrés de Satan, qui a été dépouillé, qui n'a plus aucune autorité réelle, mais l'apôtre Pierre est le premier à nous dire qu'il rôde cependant comme un lion déchaîné autour de nous. Nous sommes délivrés de la chair, notre vieil homme, notre vieille femme aussi a été crucifié avec Christ. Mais, comme disait Luther, nous devons faire noyer ce vieil homme, mais il sait bien nager, nous savons ce qu'il en est. En réalité, les seules certitudes et ce sur quoi notre liberté doit être fondée, ce sont ces certitudes qui viennent de Dieu lui-même et qu'il nous a données dans sa parole. Je veux parler notamment de points doctrinaux qui me paraissent importants. Jésus a dit en Jean 8, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Eh bien, croyez-moi, c'est vraiment par une étude approfondie de la Bible que nous connaîtrons progressivement d'ailleurs cette liberté. Je prendrai trois passages, trois exemples. Par exemple, le passage de Romains 8:1 que chacun connaît, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et ça veut vraiment dire aucune condamnation. C'est vrai que certaines versions tardives, certains scribes ont rajouté « et pour ceux qui marchent non pas dans la chair mais dans l'esprit ». Cette mention que je regrette personnellement parce qu'elle a pu troubler pendant longtemps des personnes, c'est un ajout ultérieur qui a été pris d'un verset plus bas, mais qui n'est pas conforme au texte original. Et je le déplore parce qu'il insinue que Dieu ne nous condamne pas si on marche toujours selon l'esprit. Mais ça n'était pas ce qu'a dit le Seigneur. Le Seigneur a voulu dire que, par l'apôtre Paul, que notre condamnation a été effacée, supprimée. Nous sommes déjà passés devant le tribunal. Nous étions arrivés les menottes aux mains, même aux pieds d'ailleurs, entourés de plusieurs gendarmes. Notre liste, notre acte d'accusation a été lu devant tout le monde. Et puis le juge nous a acquittés. Oh, non pas parce que nous étions innocents, mais parce que Jésus avait payé le prix pour nous. Et ça, c'est une certitude que nous ne devons jamais, jamais oublier. Il n'y a aucune espèce de condamnation et il n'y en aura aucune pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur vie par cette démarche profonde que vous connaissez. Notre salut n'est pas fondé sur le respect de la loi, mais sur le fait que Christ, comme dit l'Épître aux Hébreux, est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire avec son propre sang. C'est le sang de Jésus qui a apaisé la colère de Dieu et qui a fait qu'il nous regarde désormais d'un œil favorable. Un autre point que j'aimerais souligner avec vous, c'est cette notion qu'on a appelée quelquefois le libre arbitre de l'homme, c'est-à-dire que Dieu a toujours respecté notre liberté, ce qui est vrai d'ailleurs, mais au point que si nous avons été sauvés, c'est que ça venait quand même de nous. C'est souvent basé sur un autre passage de l'apôtre Paul en Romains 8, où il dit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. » Vous connaissez le passage. Et l'idée, c'est que Dieu, dans sa préscience, a connu, a su d'avance, comme il voit toute l'infini de l'éternité passée, présente et future, sur son tableau de bord en quelque sorte, il savait d'avance que nous allions nous convertir, donc il nous a prédestinés à être à l'image de son fils, etc. Nous avons vu ça dans le cours de grec, que le verbe « connaître » en hébreu et en grec a un sens beaucoup plus profond que la simple connaissance ou la vision intellectuelle. Dieu nous a connu d'avance, ça veut dire qu'il a décidé souverainement, sans aucun mérite, aucune action de notre part de faire de nous ses enfants. Nous étions ses ennemis et lui, souverainement, il a décidé cette action pour nous. Et un troisième point que j'aimerais souligner, qui est un peu le corollaire de tout ça, c'est que désormais, nous avons un libre accès au trône de la grâce, un libre accès au sanctuaire, comme dit Hébreux 10. Nous avons une ligne directe et permanente qui est ouverte avec le Seigneur. Nous pouvons lui parler. C'est comme si j'avais mon portable là avec un petit micro et constamment je lui parle et il me répond. La pile ne s'use jamais, la ligne est toujours ouverte. Il n'y a pas de forfait, c'est un forfait illimité. Il est là toujours pour m'écouter, tout le monde, tous ceux qui s'adressent à lui sur la terre entière. Il a un ordinateur beaucoup plus puissant que les plus puissants de tous. Il nous écoute et il nous répond. Il nous répond. Il nous parle. Je vous indiquerai tout à l'heure comment il m'a parlé, pas plus tard que hier, lorsque j'ai fait ces petits dessins, vous verrez. Et alors, j'aimerais vous dire que justement, nous avons dans la Bible, dans l'Évangile notamment, l'image de quelqu'un qui était libre. J'aimerais que dans notre culte personnel, dans nos études bibliques, nous étudions la personne de Jésus. Comment Jésus était libre dans toutes les situations auxquelles il était confronté. Dès l'âge de 12 ans, ses parents pourtant étaient à juste titre un peu inquiet, même un petit peu fâché. Ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Et puis voilà. Son attitude face au sabbat, il est allé guérir en pleine synagogue en plus, un jour de sabbat. Scandale. Face à sa mère et ses frères, ta mère, tes frères sont venus te chercher. Ma mère et mes frères, ce sont tous ceux qui entendent et mettent en pratique ma parole. Sa position, son attitude avec les femmes, une samaritaine, donne-moi à boire. Comment ? Même elle est surprise. Toi qui es juif, à moi tu me demandes à boire. J'aimerais, les vendeurs du temple, il y a tout un tas d'exemples où Jésus fait preuve d'une liberté extraordinaire. Il y avait un livre qui était sorti il y a quelques années, j'ai entendu le titre revenir là, lors, je crois, d'un week-end pour les jeunes, qui disait « Que ferait Jésus à ma place ?» Moi, je suis d'accord pour poser la question, mais je me demande quelle réponse on apporte à cette question. Parce que, en ce qui me concerne, je suis prêt à dire que Jésus me surprend toujours et nous surprend toujours dans cet évangile. Et je crois que c'est avec prudence qu'on doit apporter la réponse. C'est vrai que Dieu est Dieu et Jésus était Dieu. Je prendrai par exemple l'histoire, l'épopée de la femme cananéenne, cette femme dont on ne sait pas grand-chose, mais on sait qu'elle n'était pas juive en tout cas. Elle vient, vous la trouverez en Matthieu 15, elle vient trouver Jésus pour qu'il délivre sa fille d'un démon. Alors elle crie déjà, Jésus est imperturbable, il passe son chemin sans même, semble-t-il, la regarder, en tout cas il ne répond pas. Alors comme elle avait une voix certainement assez forte et qu'elle avait l'air déterminée, les disciples lui-même lui disent, écoute, Jésus, fais quelque chose. On ne sait pas trop si le verbe apoluo veut dire donne-lui satisfaction ou essaie de t'en débarrasser. Il peut avoir les deux sens. Mais en tout cas, le souci des disciples, c'est qu'elle ne continue pas de crier comme ça, d'ameuter un peu tout le monde. Et Jésus leur dit, et je pense qu'elle a dû l'entendre aussi, mais attendez, moi je suis venu pour les enfants d'Israël, les petits-enfants d'Israël, je ne suis pas venu m'occuper de tout le monde. Et alors cette femme qui a dû entendre la réplique, là, vraiment, elle se met à genoux. Je pense que pour Jésus, ça a dû être difficile de répondre à des choses, parce qu'il savait, dès le début, il avait lu dans le regard de sa femme sa détresse. Il voulait la sauver, sauver sa fille, mais la sauver aussi. Il avait un amour. Et alors, elle se jette à ses pieds, « Seigneur, 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 aie pitié de moi. » Et vous connaissez la suite, donc la manière dont il lui dit, et toujours poursuivant de cette façon, « Mais écoute, il n'est pas juste de prendre le pain et de le donner aux chiens, de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. » Et elle, toujours sans se démonter, toujours sentant qu'il y avait quelque chose là, qu'il pouvait le décider, elle lui dit, mais oui, mais les chiens, ils mangent les miettes. Et là, Jésus, j'allais dire, il craque, entre guillemets. Il a vu, il a compris toute la foi de cette femme, et c'est là qu'il lui donne satisfaction. Eh bien voilà, voilà quelle était la liberté de Jésus et celle à laquelle nous sommes appelés. Alors on dira, oui mais Jésus, bien sûr, il était Dieu, il était sans péché, il était ceci, il était tout ce qu'on veut, c'est vrai. Mais je vous fais d'abord remarquer qu'Adam et Ève étaient aussi sans péché, et ils ont quand même chuté. Vous savez, Jésus, pour arriver à passer ne serait-ce que 3 ans et demi, sans parler des années qui ont précédé, dont nous ne savons rien, mais nous pensons quand même qu'il en était de même aussi, pour arriver à passer 3 années sans péché, avec le ministère qu'il a eu, c'est qu'il a dû vraiment, vraiment payer le prix, y mettre le prix. 40 jours, 40 nuits, sans manger. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je ne pense pas. Mais quelle vie de consécration, de prière. Je prendrai un deuxième exemple, après l'exemple de notre Seigneur, c'est ce qui s'est passé dans l'Église après la Pentecôte. La libération que j'appelle progressive aussi de l'Église. Songez en acte 10 à l'attitude de Pierre. Dieu, le Seigneur est obligé de lui donner à 3 reprises cette vision. Tue et mange. Ah non, jamais de la vie. Tue et mange. Non. Tue et mange. Il en fallait quand même des coups de marteau pour arriver à briser ses préjugés. Il a fallu, après tout l'incident chez Corneille, pour qu'enfin Pierre comprenne que quiconque fait la volonté de Dieu lui plaît, lui est agréable. Dieu ne fait pas exception de personne. Il ne juge pas sur la mine. Mais on voit que dès acte 11, le reste des premiers chrétiens était commencé à... Tu te rends compte, il a mangé avec des païens. Et puis, acte 15, la conférence de Jérusalem, après avoir fait des premières incursions en pays païen, avoir attesté que les païens se convertissaient et recevaient le Saint-Esprit. Les apôtres reviennent à Jérusalem, et là, il est donné quelques directives. Bon, la circoncision, on est d'accord pour ne plus la rendre obligatoire, mais il faudra quand même que les gens, ce qui est normal d'ailleurs, se préservent des souillures, des idoles, de l'inconduite, la porneia. Bon, ça c'est tout à fait naturel, mais ils ajoutent quand même aussi se préserver, de s'abstenir des animaux étouffés, du sang. Et puis, Paul, qui a suivi un autre chemin, nous dira en Romains et en 1 Corinthiens que finalement nous pouvons manger de tout et que la seule raison qui doit nous retenir, y compris d'ailleurs manger des viandes qui avaient été sacrifiées dans les temples idolâtres de la Grèce, ce qui était une véritable abomination si on va bien chercher. Eh bien Paul dit que c'est pas l'aliment qui va nous salir. Jésus l'avait dit avant lui, mais... Donc c'est pour vous dire que l'Église, à mon sens, c'est doit être vraiment ce lieu de la grande liberté, où nous pouvons vivre des choses avec le Seigneur, et par cercle concentrique, cette liberté va gagner les associations chrétiennes pour lesquelles nous œuvrons, les entreprises, chrétiennes ou non, parce que c'est vrai qu'en France, il n'y a pas énormément d'entreprises vraiment chrétiennes, mais... Et petit à petit, c'est comme ça que nous allons transmettre cette liberté au monde. Mais en sachant que la liberté n'est pas quelque chose comme ça qui tombe tout à fait gratuitement du ciel. C'est quelque chose d'abord que nous devons conquérir par notre vie spirituelle, par une relation constante avec Dieu et par le respect de sa loi qui est en fait une loi d'amour. C'est par l'amour que nous avons pour les uns pour les autres, que nous traduirons et démontrerons cette liberté. Jacques nous dit « Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté. » Et il dit encore « Celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, celui-là sera heureux dans son action et dans son œuvre. Alors j'aimerais vous montrer avec l'aide d'un jeune, là s'il veut bien, quelques diapositives qui ont été un peu à l'origine de ma réflexion. Deux mots d'explication. Figurez-vous que l'été passé, nous étions en Irlande et je savais que la ville de Belfast était une ville, surtout comparée au reste de l'Irlande, où le témoignage chrétien était très important et en particulier où il y avait de très nombreuses et très bien fournies librairies évangéliques. Et donc, j'avais fait une liste de ces librairies à la poste, et puis nous étions en train de nous y rendre avec Chantal, et nous avions repéré la plus proche, parce que le temps était très limité, je dois préciser. Nous avions en fait un quart d'heure pour visiter ces librairies, parce que nous sommes arrivés à Belfast le 11 juillet, et nous avons appris à la poste que le lendemain, tout était fermé, et il était déjà 4h et quelques dans l'après-midi. Donc nous avions un quart d'heure et je suis arrivé dans cette librairie qui était immense. Je n'ai jamais vu, ni en France, ni en Angleterre, à Londres, ni aux États-Unis, ni en Allemagne, une librairie aussi fournie. Il y avait des rayons à perte de vue sur deux étages. Il y avait plusieurs millions de livres évangéliques, plusieurs milliers de CD et de DVD. J'étais comme un taureau lâché dans une arène ou un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je ne savais plus littéralement où donner de la tête. J'avais moi-même fait ma liste, je l'ai donnée en arrivant. Alors ils sont partis me chercher les livres. Et puis j'ai dit, tu vas quand même essayer de faire un tour. Et en passant, très rapidement, je me rendais dans un autre rayon qu'on m'avait indiqué. J'ai vu un petit livre, alors peut-être vous le connaissez, je ne sais pas, pour moi ça a été une découverte. J'ai très rapidement, j'ai retenu 3 pages, j'en ai fait moi-même une 4e, pour vous montrer en fait, et ce livre m'a frappé, je pense qu'il est destiné aux jeunes, mais nous sommes tous jeunes finalement, hein. On avait l'habitude de dire de 7 à 77 ans, comme les jeunes maintenant, dès l'âge de 2-3 ans, ils commencent à manipuler les ordinateurs, les personnes âgées maintenant commencent à vieillir, et à vieillir je veux dire en bonne condition, on peut dire qu'on est jeune de 3 maintenant à 130 ans pratiquement, hein. Donc c'est quelque chose qui parle à tous, hein. Alors voilà, j'ai juste eu le temps de feuilleter ces trois pages et ça m'a vraiment frappé pour me montrer qu'est-ce que c'est que la vraie liberté par rapport à cette loi qui reste quand même. Hein. Il ne faut pas se nier que la loi de Dieu demeure, elle demeure éternellement et c'est elle qui nous jugera un jour. Mais quelle est notre relation vis-à-vis de la loi? Alors je vais demander à Yann de passer la première page. Donc voilà, nous voyons notre loi comme quelque chose au début, hein, avant même d'être chrétien, comme quelque chose qui nous emprisonne. Oh Seigneur! Alors, je ne me rappelle plus les commentaires en anglais qu'il y avait, je vais essayer de vous faire les miens. Oh Seigneur, mais pourquoi tu as prévu une loi pareille? Mais c'est pas possible, enfin je peux même pas regarder une femme, je peux pas, j'aimerais dire du mal d'un tel, parce que vraiment il m'a fait du mal, ou lui faire un procès. Seigneur, Seigneur, enlève ça! Alors, je précise que hier, j'espère que c'est le Saint-Esprit qui m'a soufflé, tu devrais lui faire la moustache à ce personnage. Seigneur, Seigneur, que c'est dur de vivre cette vie chrétienne, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait le jour où je me suis converti? J'étais bien plus libre avant, je faisais ce que je voulais. Et puis un jour, mes œillères sont tombées. Vous verrez que le personnage désormais porte des lunettes. Page numéro 3. Je me suis aperçu qu'en fait, ces barreaux que j'avais représentés en rouge, c'était l'horreur, comme le rouge du taureau. En fait, c'était mon salut. Je les ai mis en blanc parce que, en fait, ils me protégeaient du gouffre, de l'abîme, de la mort éternelle, loin de Dieu, de la condamnation. C'est mon salut, ces barreaux. Gloire à Dieu! Alors la 4e page, je l'ai rajoutée pour montrer la relativité de ce gouffre et de ces barreaux pour nous qui sommes sauvés. Alors, la personne, c'est moi, elle est à genoux. Hein, je ne suis pas très fort pour dessiner les gens à genoux. Voilà. Et si nous regardons à la croix, si nous regardons ce chemin qui est certes difficile, mais qui est tellement glorieux, alors Vous voyez que ce gouffre avec ses barreaux, il est toujours là, bien sûr, mais j'ai de moins en moins, je dirais, surtout en vieillissant, de désir et d'occasion de me laisser obnubiler par lui. Il prend une position relative de plus en plus petite au fur et à mesure que je me tourne vers Dieu et que je reste en communion avec lui. Voilà le message que je voulais vous laisser, et je crois que nous allons prendre maintenant le repas du Seigneur dans cette liberté de tous ceux qui ont fait cette démarche et qui, certes, ne sont pas parfaits. Ils savent qu'il y a quand même cette loi, cette référence, et heureusement qu'elle est là pour nous ramener dans le droit chemin, mais qui ont cette liberté de s'approcher de Jésus parce qu'ils sont couverts par le sang de l'agneau. Merci de votre attention.